France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse. Et ce matin, quelles sont les villes où il fait bon vivre pour les femmes, des villes qui aiment les femmes, qu'il s'agisse de sécurité, de santé, de place dans les crèches, de facilité dans les transports, d'implication dans la vie locale ou de nom de rue. De nombreux critères que nous allons évaluer avec le magazine Femme Actuelle. Et puis nous demanderons si par essence la ville est faite par et pour les hommes, pour reprendre le titre du livre du géographe Yves Rébaud. Par exemple, les noms d'hommes sur la majeure partie des plaques à tous les coins de rue, des loisirs qui profitent avant tout aux garçons, sans oublier la culture du harcèlement, des villes qui se déclinent encore trop souvent au masculin. Comment rendre les villes plus égalitaires? C'est l'une des questions que nous poserons ce matin à nos invités. N'hésitez pas à participer à notre conversation au standard et sur WhatsApp au 01 45 24 7000 en laissant des messages et des notes vocales sur l'appli France Inter, sans oublier la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien Vous Fasse.
Je crois qu'il y a une organisation de la ville qui affecte aux femmes l'intérieur et aux hommes l'extérieur. Parce qu'au fond, si on était très matérialiste, est-ce qu'on a vraiment intérêt à ce que les femmes s'éclatent dans la ville, soient heureuses, aillent jouer au foot? Elles ont peut-être aussi une utilité pour regarder les personnes âgées, les enfants, faire la cuisine et le ménage. Donc il y a aussi un peu ça. Et par contre, dans la rue, on a besoin des filles, mais à ce moment-là, on a besoin de filles qui soient jolies, mignonnes et possiblement consentantes. Donc on a une culture aussi de l'objectivation des femmes dans la rue comme objet sexuel et de leur relégation dans la sphère privée comme esclaves domestiques.
Le géographe Yves Rébaud dans l'émission Un jour en France sur France Inter le 9 novembre 2015. Bonjour Edith Marie-Jouls.
Bonjour.
Vous êtes géographe, spécialiste des questions de genre et de mixité, et vous êtes l'autrice de « Faire jeu égal, penser les espaces à l'école pour inclure tous les enfants » publié en 2022 chez Double Ponctuation. Vous partagez ce constat de votre confrère, de votre collègue Yves Rébaud?
Oui, en tout cas, ce qu'on peut constater quand on fait du terrain, quand on marche dans l'espace, c'est que effectivement, les aménagements, les femmes ne font pas sujet de l'espace.
Bonjour Marion Valère.
Bonjour.
Vous êtes urbaniste, directrice du pavillon de l'Arsenal à Paris. Vous êtes l'ancienne conseillère architecture, patrimoine et espace public au cabinet de la maire de Paris. Réaction à ces propos d'Yves Rébaud?
Réaction, la ville est le miroir de notre situation de femme. L'urbanisme ne peut pas tout. Mmh. Moi, je suis urbaniste, donc je crois beaucoup en l'urbanisme. Mais je crois que l'objectif serait que tout ça ne soit même plus un sujet. Que les urbanistes n'aient plus à aménager les rues en fonction du harcèlement de rue. Que les places en crèche soient autant un sujet pour les femmes que pour les hommes. Voilà, moi c'est ça ma première réaction.
Les villes dans notre pays se déclinent encore trop souvent au masculin.
Bien sûr, on pense que l'espace est neutre, que la ville est pensée pour toutes et tous. Ce n'est pas le cas. En fait, la ville a été pensée pour un certain type d'individus. Et aujourd'hui, on doit la penser plus pour les femmes, mais aussi plus pour les enfants, plus pour les personnes âgées, plus pour les personnes en situation de handicap. On doit partir de tous ces points de vue-là pour bâtir une ville qui soit vraiment praticable et agréable pour tous.
Edith Marie-Jouls.
Oui, tout à fait. Je pense que comprendre ce que Marion explique très bien, c'est-à-dire la conditionnalité des femmes, c'est-à-dire dans quelle structuration elles sont, qu'est-ce qu'elles ont apporté, la question, elles sont plus pauvres, elles sont plus monoparentes, elles ont la gouvernance domestique, la gouvernance des enfants. Donc en fait, elles parcourent le sol de la ville d'une manière spécifique et elles portent avec elles des questions inclusives, des grandes questions. Donc passer à côté de leur marche, de leur quotidienneté, c'est passer à côté d'une ville qui prend en compte les vulnérabilités aussi, et tous et toutes, finalement.
Marion Valère.
Absolument. L'espace public, c'est vrai que moi j'explique souvent ça à des hommes. Quand on est une femme, on ne le vit pas de la même manière. On se pose la question si on doit rentrer à 2h du matin. On se pose différemment la question, mais aussi en journée. Et donc, tous ces sujets-là, comme je disais, ne devraient même pas être des sujets. Pour autant, les villes peuvent faire beaucoup pour quand même aménager pour que au quotidien cela soit plus agréable. Il y a un certain nombre de politiques publiques qui peuvent exister dès lors que l'on adopte ce point de vue-là et qui peuvent permettre d'améliorer la situation.
Et on va revenir largement sur cette question de la sécurité des femmes dans l'espace urbain, dans les villes. Bonjour Sabrina Nadjar.
Bonjour Ali.
Je suis ravie de vous accueillir. Vous êtes rédactrice en chef de Femme Actuelle partenaire de Grand Main Vous Fasse depuis la première saison.
Absolument.
Et vous proposez dans le numéro qui sort demain,
samedi,
un palmarès exclusive des villes où il fait bon vivre pour les femmes. Quels sont les principaux enseignements que l'on peut en tirer ?
Eh bien, écoutez, les principaux enseignements, comme l'ont dit les unes et les autres sur ce plateau, c'est qu'effectivement, les villes sont faites par des hommes, pour des hommes. Elles sont trop viriles et finalement, les femmes trouvent assez difficilement leur place et leur liberté, en fait, dans les villes. Il faut savoir que à la base, la ville est faite pour un homme de 1m80, athlétique et en bonne santé. Donc, vous imaginez les femmes, les personnes âgées, les handicapés, voire les enfants, comment peuvent-ils se sentir à l'aise dans un tel environnement qui n'est absolument pas fait pour eux. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on essaye, certaines villes, en tout cas, essayent de renverser la vapeur avec un certain nombre d'initiatives, notamment des initiatives qui sont portées par les associations, puisque les associations sont extrêmement actives en ce domaine. Il y a quelques années de ça, on parlait des marches exploratrices. C'était les associations qui emmenaient les femmes, en fait, et les élus, les idylles, dans certains quartiers pour montrer la difficulté pour les femmes, c'est-à-dire un endroit où il y a un attroupement d'hommes, un endroit où il n'y a pas de lumière, un endroit où il y a un petit recoin où on risque de se faire attaquer. Et puis, paradoxalement, c'est pas tellement les chiffres de l'insécurité qui sont importants, mais c'est la sensation, le sentiment des femmes d'avoir peur d'être en ville, en fait.
Et vous avez totalement raison, ce sentiment d'insécurité qui a des effets psychiques et physiques sur le corps et des femmes. Marion Valère.
Oui, je pense que la ville peut représenter à la fois cet espace de liberté, de possible, mais aussi de menace, en fait. C'est toute l'ambiguïté de la ville pour les femmes. Parce que finalement, la ville, c'est l'endroit où on va pouvoir plus facilement trouver un travail, s'émanciper en tant que femme dans sa vie professionnelle, avoir plus de solutions de garde d'enfants. Si on regarde le cas parisien, on a des taux d'accès aux crèches qui sont quand même très bons. Et donc, voilà, c'est la ville, c'est un espace de possible, mais c'est aussi un espace de menace, parce que on craint d'être agressé, on doit aménager son quotidien. Et donc, je crois que c'est cette ambiguïté sur laquelle il faut travailler.
Edith Marie-Jules.
Oui, je pense que ce que vous l'avez très bien décrit toutes les deux, c'est-à-dire que l'idée, c'est la question de l'égale liberté. En fait, ce sentiment aussi de ne pas être à sa place, de ne pas être légitime à l'espace du dehors, il est créé parce que ce n'est pas un espace égalitaire. Donc, on ne peut pas y exprimer sa propre liberté. Je veux, voilà, la question de l'insouciance. Hein. Ça, c'est des choses qu'on montre très bien sur le terrain, qu'on cartographie très bien aussi.
Il ne faut pas sous-estimer cette question de l'insouciance dans la ville.
Oui,
les politiques publiques ne prennent pas assez en compte cette question-là.
Oui, la possibilité de faire citoyenneté pour les femmes au dehors, de faire sujet, mais de faire peuple aussi, c'est-à-dire de se trouver entre elles, hein, de faire solidarité, sororité. En fait, quand on installe des groupes d'hommes, d'ailleurs on n'installe pas tous les hommes, hein, vous l'avez très bien dit, mais on privilégie le fait qu'il soit un corps social visible, hein, qu'il soit qui un rapport de force inégalitaire, c'est-à-dire on voit des hommes. On ne voit jamais 10, 20 femmes assises, voilà. Donc ça, c'est aussi un enjeu de l'espace public.
Oui, la ville, c'est aussi un rapport de force. Et effectivement, comme le dit Edith, ce rapport de force, on le voit. Est-ce qu'on voit souvent des attroupements de 30 femmes dans l'espace public ? Pas vraiment. Et y a ce sujet de se sentir forte, de se sentir puissante, de se sentir insouciante. Et ça, c'est hyper important, je crois, pour toute femme et toute jeune femme aujourd'hui, de sentir cela dans la ville.
À contre-cœur, je vais me faire l'avocat du diable. Pour certains, le lien entre urbanisme et féminisme ne semble pas du tout évident. Et pourtant, la question de la place des femmes dans la ville, c'est une question politique majeure, trop souvent sous-estimée. Mais certains ne voient pas ce lien entre urbanisme et féminisme.
Bah, il suffit de donner notre costume pendant une journée et je crois que ces personnes comprendront.
Edith Marie-Jo.
Oui, je pense que ce qui est intéressant, c'est que de toute façon, la question du paradigme féministe, c'est-à-dire le fait de travailler ou de mettre les outils de sa science au service d'une égalité femmes-hommes et de résoudre aussi les questions d'inégalité réelle, hein, la pauvreté des femmes, mais aussi les violences, etc., c'est de toute façon un paradigme qui peut être invisibilisé dans tout type d'approche scientifique. Hein, c'est pas que la question urbaniste, ça a toujours été travaillé. Il y a un déni aussi sur le fait que ça soit un sujet objectif, ou un sujet en tout cas, de création de savoir. Et ça, voilà, ça fait partie de la destruction, enfin en tout cas du fait qu'on n'avance pas non plus assez sur ces questions-là.
Sabrina Nadjar, vous nous révélerez en fin d'émission la ville où il fait bon vivre pour les femmes, la ville qui n'est pas un espace neutre, hein, vous le montrez très très bien dans ce dossier, qu'il s'agisse de mobilier urbain, de sécurité, de mobilité, tout cela reproduit les inégalités hommes-femmes présentes dans la société, dans l'ensemble de la société.
Tout à fait. Finalement, la ville n'est qu'un miroir en fait de la société. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que la société commence à évoluer, à bouger, que des politiques sont mises en place pour favoriser l'égalité et puis pour regarder ce qu'appellent les sociologues, regarder avec les lunettes de genre, c'est-à-dire à l'aune de la particularité des uns et des autres. Il faut savoir que on a tous été élevés avec des stéréotypes. Il y a qu'à voir dans les cours d'école. Au démarrage, la cour d'école, c'est quoi ? C'est un espèce de carré où les garçons sont au milieu avec des ballons, prennent tout l'espace, et les filles sont autour, et puis elles se mettent le plus près possible du mur. Et aujourd'hui, de changer les cours d'école, en fait, ça change toute la physionomie et tout le rapport entre les enfants.
Ça, c'est votre sujet, dites Marie-Jules.
Oui, c'est mon sujet. Mais ce qui est intéressant dans ce que vous décrivez, c'est ce qu'on appelle le continuum, c'est-à-dire le fait qu'en fait, on ne rattrape pas lorsqu'on est déjà disqualifié en tant que fille, symboliquement.
Hein, dès la cour de récréation.
Voilà, les petits jeux, etc. On ne rattrape pas sa place à l'espace citoyen, de l'espace public. C'est aussi une forme de mésapprentissage. Et ça, c'est important de voir le continuum.
Marion Valère.
Oui, l'exemple des cours d'école, il est très bon. Il montre aussi ce qu'on peut faire. À Paris, il y a tout un programme qui s'appelle les cours Oasis, qui a plusieurs objectifs.
Donc, c'est quoi ? Alors,
ce sont des cours d'école qu'on végétalise d'abord, parce que vous savez, la cour d'école est souvent très minérale. Et donc là, l'idée, c'est de les transformer en jardin, mais aussi de profiter de cet aménagement pour penser cette vie sociale des élèves. Et donc, en fait, dans le cadre de ces travaux avec les élèves, la question du genre est abordée et on pose la question à tous les élèves de quel serait leur cours d'école rêvé. Et en fait, la question de l'occupation de l'espace, du foot qui est omniprésent, est bien sûr une question parce que, en fait, les petites filles, elles disent « moi aussi, j'aimerais être au centre de la cour, mais pour ça, il faut peut-être qu'elles soient pensées autrement ».
Oui, parfaitement. Et en tout cas, ça préfigure, je pense que ce qui est intéressant de se dire aussi aujourd'hui, c'est que ce qu'on préfigure, c'est une société assez simple, hein, dans laquelle ce qui est central, c'est la relation fille-garçon, c'est le partage de l'espace, c'est considérer aussi que faire société, c'est discuter, c'est avoir de la culture, hein, c'est des espaces calmes, des espaces à lire. Et les femmes aussi, parce qu'elles s'intéressent à toutes ces questions-là, portent ces diversités d'approches de l'espace. Et dès qu'on les met en place, donc c'est des tables, des chaises, c'est penser les choses autrement, penser aussi que ça a de la valeur, les sujets que portent les filles, et bien finalement, ça change. Ça change la manière de vivre ensemble.
Tiens, j'aimerais revenir sur une déclaration que vous faisiez, dites Marie Jules, au Monde en 2022. Vous disiez que les villes ont longtemps pensé faire du neutre quand elles faisaient du masculin. Expliquez-nous, les villes qui ont longtemps pensé faire du neutre quand elles faisaient du masculin.
Oui, en fait, si vous voulez, c'est tout l'argumentaire autour de finalement, être à égalité, c'est avoir les mêmes droits, ce qui est tout à fait vrai. Hein. Donc, je crée un espace. Si les femmes n'y sont pas, c'est qu'elles ne veulent pas. C'est-à-dire qu'on va travailler cette notion de liberté. Hein, voilà. Alors qu'en réalité, une petite fille qui demande à 10 garçons « Est-ce que je peux jouer avec toi ?» et 10 qui lui répondent non, ou c'est le cas dans les city-stades, etc., elle est absolument pas dans un espace égalitaire de négociation, et il y a un déni de son droit en fait. Donc entre j'ai le droit et je veux faire quelque chose, il y a est-ce que ça m'est rendu possible, hein, et c'est toute cette question-là qui est en jeu.
Vous prenez l'exemple des city-stades, on peut prendre aussi l'exemple des skate-parks. Quand une municipalité construit ce genre d'équipement de loisirs, elle s'adresse consciemment ou inconsciemment, d'abord aux garçons. En 2024, la grande majorité des budgets publics destinés aux loisirs des jeunes profitaient surtout aux garçons, Edith Marie-Jules.
Oui, en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que ce n'est pas tous les garçons, mais ce qui est très très simple à visualiser, c'est que si vous mettez à l'espace public quelque chose de prescriptif, un skatepark ou un city-stade, là où on fait du foot, c'est bien ceux d'entre nous qui savent, qui sont forts en skate et en foot qui vont occuper l'espace. Mmh. Et ça exclut 90% de la population.
Et que répondez-vous à ceux et celles qui vous disent mais que c'est aux filles, aux femmes, de s'emparer de ces infrastructures qui sont a priori plutôt destinées aux hommes ?
Oui, mais c'est ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'il y en a qui veulent, elles ne peuvent pas. Mmh. Hein, c'est très très bien montré. Mais il y a aussi la question, est-ce qu'on peut construire pour les vulnérables, pour les fragiles, pour est-ce qu'on peut faire de l'espace public un espace d'apprentissage et non un espace de mise en scène de la force de certains garçons.
Et vous le dites souvent, Edith Marie-Jules, la question des inégalités hommes-femmes ne doit pas être une question de choix individuel. Je vous cite, je décide en tant que femme d'investir cet espace a priori destiné aux hommes.
Oui, tout à fait, puisque là, on remet en scène ce qu'on appelle le rapport de force. On redit aux femmes qu'il faut qu'elles s'imposent. Et la majorité est d'ailleurs très petites filles sont dans la règle, donc elles ne souhaitent pas mettre en scène de la violence par rapport aux autres. Et je pense que c'est ça aussi une société égalitaire.
Marion Valère.
Oui, il y a plein de manières de concevoir un espace public, en fait. Et aujourd'hui, dans l'urbanisme, il y a un terme qui est celui d'espace capable.
C'est quoi ?
C'est en fait un espace où on va se sentir autorisé à faire des choses différentes. C'est-à-dire que, par exemple, un city-stade, effectivement, on va dire, bon là, il faut faire du foot, globalement. Si vous avez une place qui est pensée pour différents usages, par exemple la place de la République à Paris, alors il y a beaucoup de skate aussi, mais il y a plein d'autres choses. Je pense aussi vers la Bibliothèque Nationale de France, où il y a beaucoup de jeunes femmes qui s'installent pour danser, qui s'installent entre copines pour discuter, pour danser. Ces espaces existent. Quand ils sont pensés aussi comme ça, quand ils sont très ouverts, qu'on peut s'y retrouver, qu'on a de la visibilité, qu'on se sent en sécurité, c'est possible.
Edith Marie-Jules.
Oui, tout à fait. C'est la question de se retrouver, de se trouver à l'espace public avec. Et c'est aussi la question des co-adultes, hein, c'est-à-dire de sortir de la question de la parentalité par rapport à l'enfant, mais des adultes par rapport à des jeunes, à des mineurs, et comment l'espace public nous permet de nous trouver, de nous retrouver dans ces espaces-là en ayant chacun et chacune finalement nos propres groupes de pairs, en fait. Donc, c'est toutes ces questions de plaine, toutes ces questions de souplesse de l'espace, de temporalité de l'espace, de la question saisonnière aussi. Et tout ça, effectivement, ça se travaille assez simplement. Mais il faut sortir de quelque chose qui est prescriptif, hein, dans lequel on dit, ici, on ne fait que ça.
Votre regard, Sabrina Nadjar, de Femme Actuelle.
Oui, non, moi, ce que je voulais rajouter, c'est que finalement, nous, dans l'enquête, on s'est rendu compte que les villes où il faisait bon vivre pour les femmes étaient des villes qui, dans leur budget, en fait, avaient un regard paritaire. Et effectivement, tout à l'heure, on parlait des skateparks et des associations sportives, etc. Et à partir du moment où elles regardent où sont alloués, en fait, les budgets, qu'est-ce qu'on crée avec, effectivement, cette volonté d'être à parité, là, la ville commence à être beaucoup plus agréable pour les femmes et on commence effectivement à produire des endroits où effectivement, comme vous l'avez très très bien dit, les femmes ont envie de se rencontrer, de se retrouver, de partager. Mais il y a une volonté politique derrière et il faut que cette volonté soit vraiment affirmée en fait.
Dans un instant, nous vous révélerons les villes où il fait bon vivre pour les femmes, toujours avec Femmes Actuelles. Ce sera juste après avoir écouté Grace Jones, La vie en rose, interprétée en 1977, 10h25 sur France Inter.
Je
West Jones interprétait La vie en rose.
Taxi ! Les vignerons !
Grand bien vous fasse.
Y'a pas une borne de taxi par ici ? Faut que je rentre à Paris d'urgence, je me sens pas bien.
Ali Rebéi sur France Inter.
Et on se demande ce matin quelles sont les villes où il fait bon vivre quand on est une femme à l'occasion du palmarès publié ce samedi par Femme Actuelle. Olivia nous écrit ceci en toute nuance. Bien-être des femmes égale nombre de places en crèche. Franchement, France Inter, vous valez mieux que ces raccourcis idiots, non ? Que peut-on répondre à Olivia, Edith Marie-Jules ? Je rappelle que vous êtes géographe, spécialiste des questions de genre et de mixité.
Je pense qu'il faut pas rentrer dans le piège aussi, la question de l'articulation des temps sociaux, hein, c'est-à-dire des modes de garde. Pourquoi elle s'adresse aux femmes? Parce que ce sont les femmes qui ont statistiquement, lourdement,
la
beaucoup plus
mentale.
En charge, mais en charge, j'allais dire quotidienne, de poser les enfants à l'école, à la crèche, etc. Donc qu'il y ait, qu'on pense aussi l'articulation, certes. Quand on travaille la ville à travers les quotidiennetés des femmes, on les travaille à travers les statuts, qui sont des statuts parentaux, qui sont des statuts de jeunes femmes, de femmes âgées, etc. Donc bien sûr, ça entraîne la population des hommes pères aussi dans cette question-là. Il ne faut pas opposer cette question. Enfin, donc c'est important aussi de s'intéresser à la quotidienneté.
Marion Valère, je rappelle que vous êtes urbaniste et directrice générale du pavillon de l'Arsenal à Paris.
Oui, absolument, il faut agir sur les deux tableaux. Aujourd'hui, le mode de garde, c'est un sujet pour les femmes, c'est évident. Et donc, une ville, quand elle agit pour les modes de garde, elle agit pour les femmes et les hommes, mais elle agit aussi pour les femmes parce que, malheureusement, il y a encore cette inégalité très forte aujourd'hui, sur laquelle il faut agir aussi.
Sabrina Nadjar, de Femmes Actuelles.
Oui, oui, tout à fait. Je rejoins ce qui est dit. Il faut savoir qu'aussi aujourd'hui, quand un enfant est malade, c'est généralement la mère qui l'emmène chez le pédiatre. Vous pouvez interroger tous les pédiatres, ils vous diront que dans leur cabinet, il y a essentiellement des femmes. Donc voilà, ça va changer.
Et que la charge mentale repose sur les femmes.
Bien sûr.
À 90%.
Alors, on essaye que les choses changent, notamment avec le congé parental, avec effectivement la possibilité pour les hommes en fin de journée de partir plus tôt pour aller récupérer leurs enfants justement à la crèche ou chez la nounou. Mais tout ça prend du temps.
C'était le 8 mars dernier. La place située devant le tribunal de Strasbourg prenait le nom de Gisèle Halimi. Des noms savamment et longuement choisis par une commission spécifique qui se réunit une fois par an.
C'est important de travailler à rattraper ce retard, car les noms de rues et les noms d'écoles racontent une histoire, portent notre récit commun. Et ce récit, aujourd'hui, on ne pouvait plus considérer qu'il n'était fait que de personnalités masculines. C'est pourquoi la ville de Strasbourg a engagé une démarche volontaire pour concourir à une plus grande égalité dans les représentations de ces noms de rues.
Extrait d'un reportage diffusé sur France 3 Grand Est le 22 décembre 2023. La place des femmes dans une ville se voit donc également dans les noms des rues. Partout en France, des grands hommes sont célébrés pour nommer des rues, des avenues, des boulevards. Des études montrent clairement que l'écrasante majorité des noms de rues, places, boulevards, avenues sont des noms d'hommes. À Paris, il semblerait, alors c'est un comptage qui remonte à 10 ans, que 123 avenues parisiennes sur 130 portent des noms d'hommes. Marion Valère, sur cette invisibilité des femmes dans les noms de rue.
C'est absolument central comme sujet, parce que la ville, c'est un espace de symboles. À chaque coin de rue, vous avez une statue, une plaque de rue, un monument, et très souvent, tous ces espaces célèbrent des hommes, vous l'avez dit. Et donc, pour la représentation que se font les femmes, les petites filles, de leur possible, de leur destin, de leur fierté, c'est absolument essentiel de rééquilibrer et de mettre plus en valeur la place qu'ont eu les femmes dans l'histoire, parce qu'on le sait, beaucoup de femmes ont joué des rôles majeurs, mais très souvent, elles ont été invisibilisées. Et donc, il faut réinvestir ces symboles, ces noms de rue, ces statues. Il faut célébrer les femmes. Vous imaginez, en tant que petite fille, quand tout autour de vous, il n'y a que des destins masculins qui sont célébrés, qu'est-ce que vous imaginez de votre avenir et de vos possibles ?
Edith Marie-Jules, sur cette invisibilisation des femmes par les noms des rues.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Je veux dire aussi que c'est pas que les noms de rues. On l'a dit, c'est les noms de statues, c'est les noms de ponts, c'est les noms de stades, c'est les noms d'équipements publics, c'est les noms d'arrêts de bus.
Hein, c'est les noms de stations de métro, etc. Donc en fait, c'est massivement ça. Je suis d'accord, prononcer le féminin, c'est se projeter aussi dans un espace qui est covéillant, hein, dans lequel on s'entend soi-même. Et c'est aussi rendre hommage et rendre à ce que les femmes font pour créer un pays aussi.
Moi, je ne savais pas pendant longtemps que la rue de Rochechouart était le nom d'une femme. C'est là, et qui a été rebaptisée d'ailleurs à Paris, rue Marguerite de Rochechouart, Marion Valère.
Absolument, et cela montre ce que peut être l'action publique voilà, remettre... mettre en valeur à chaque fois qu'il y a une femme et qu'on ne le sait pas vraiment. Pareil pour les le tramway qui a été fait à Paris le long du boulevard des Maréchaux, où ce sont essentiellement des noms de femmes qui ont été donnés, et de finalement faire connaître tous ces destins assez singuliers. Je pense que c'est très très important.
Alors, il n'y a pas que Paris, hein. À Strasbourg, on l'a entendu, de plus en plus de municipalités amorcent ce rééquilibrage en inaugurant des rues, des avenues, des stations de bus, de tramway, de métro avec des noms de femmes. On pourrait vous rétorquer, alors je me fais à nouveau l'avocat du diable, que ce n'est pas si important que ça de donner des noms de rue aux femmes. Ça vous laisse pantoise.
Non, c'est essentiel, comme je le disais. Comment peut-on imaginer que des symboles ne célèbrent que la moitié de la population ? Ça n'a aucun sens. Et là aussi, ça ne vaut d'ailleurs pas que pour les femmes. Ça vaut aussi pour d'autres minorités qui ont été invisibilisées. Et on doit se poser cette question à une large échelle de quels sont ces symboles que l'on projette, finalement.
Juste par rapport à la question, par exemple, que vous citiez, d'où l'importance de prononcer le féminin. C'est-à-dire cette question aussi du masculin neutre, on la retrouve. Hein, c'est-à-dire que vous donnez un nom de famille, vous projetez un homme.
D'accord. Mais moi, la rue Rochechouart, voilà, par exemple, j'ai longtemps cru que c'était un homme.
Et ça, c'est vraiment extrêmement important aussi.
Sabrina
Nadja. En fait, ce qui est très important, tout à l'heure, on parlait des symboles, mais les symboles sont fondamentaux parce qu'en fait, dans l'inconscient collectif, il y a quelque chose qui se met en place et qui s'engrange. Et c'est vrai que quand vous avez des noms de rues qui sont des noms de femmes qui ont fait des choses extraordinaires et qui se sont illustrées, bah, petit à petit, dans l'inconscient collectif, vous placez la femme dans une position de conquérante, dans une position positive, dans une position de force. Et inconsciemment, Ça influe sur la façon de regarder les femmes et de les considérer.
Peggy qui nous écrit « Les villes ont été construites par et pour des hommes. Exemple, le manque de toilettes publiques. » Ça, c'est très intéressant, Edith Marie-Jules, cette question des toilettes publiques.
Ça fait des années que je travaille sur la question des toilettes. Hein, et je pense que c'est l'exclusion, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut bien avoir une visibilité sur cette question-là. C'est pas tous les hommes. On parle bien ici de 90% de la population. D'accord ? Si vous ne mettez pas de toilettes publiques, vous excluez les enfants, les personnes incontinentes, les personnes âgées, les femmes, etc. Voilà. Et puis les hommes qui ne souhaitent pas uriner devant tout le monde. Hein, voilà. Donc, juste pour finir sur la question des toilettes, ce qui est très important, c'est de les concevoir aussi de manière intelligente. C'est-à-dire que souvent, la catégorie fille-garçon ou femme-homme, elle masque une pertinence. Et les toilettes publiques, par exemple, c'est je suis seule ou en famille. Je dis ça, mais...
Mais la question des toilettes publiques est importante aussi pour les femmes qui ont leurs règles aussi, pour avoir un espace sécurisé, propre, pour pouvoir changer leur serviette périodique, par exemple. Ce sont des questions essentielles, ce ne sont pas des questions anodines, Marion Valère.
Oui, la ville, ce sont aussi tous ces petits détails d'aménagement dans l'espace public, mais aussi d'ailleurs dans les restaurants. Tous ces détails qui vont faire qu'on se sent bien. Effectivement, la question des règles que vous citez est très importante. De prévoir des dispositifs pour cela partout dans la ville. Il y a aussi des dispositifs parfois de distributeurs de tampons, de serviettes hygiéniques. Tout ça, c'est important puisque c'est le quotidien des femmes.
Tiens, je vous propose d'écouter à nouveau le géographe Yves Rébeau à Bordeaux sur France Inter en 2015.
Donc là, on arrive au quartier des boîtes de nuit, un quartier qui est très prisé par... les jeunes en général et les étudiants, les étudiantes en particulier. Donc elles arrivent de la place de la Victoire vers 11h minuit. Tout le monde est en groupe, donc ça pose pas tellement de problèmes. Par contre, on peut sortir à 3h, 4h, 5h du matin. Là, c'est l'angoisse parce que là, il n'y a pas de tramway, il n'y a pas de bus. Donc là, on est sous un grand pont qui sent un peu l'urine, là, qui passe sous la gare TGV. Et donc, c'est le passage obligé, vous voyez, on est obligé de passer par là. Donc vous imaginez, quand vous revenez des boîtes, il faut passer par là. La circulation des femmes, et là des jeunes filles en ville, n'est pas libre. Elles sont toujours finalement sur leur garde, hein. Elles ont toujours doivent se méfier, hein, d'une certaine manière. Elles ont des stratégies en disant je vais passer par telle rue plutôt que telle autre. Et puis elles ont aussi des stratégies pour être invisibles, pour marcher sans se faire remarquer. Elles ne stationnent pas. Une fille qui stationne n'est potentiellement une proie consentante, éventuellement une prostituée. Hein. Et donc les femmes, bien les jeunes filles, bien elles marchent ni trop vite pour pas faire croire qu'elles ont peur, ni trop lentement pour pas faire croire qu'elles cherchent. Et elles essayent d'être le plus invisible possible dans la ville. Donc là, on trouve une constante dans la circulation des femmes dans la ville, en particulier la nuit.
Le géographe Yves Rébaud s'est dit il y a presque 10 ans, mais la circulation des femmes dans la ville, ça reste problématique dans certains endroits, à certaines heures, dans de nombreuses villes. Edith Marie-Jules.
Oui, ça reste problématique et c'est une question qu'on doit se poser, je pense, collectivement. C'est ce que Virginie Despentes appelle aussi le prix de la liberté. Les femmes payent un prix plus fort pour leur liberté. Et c'est la question de comment, finalement, tous et tout ensemble, on prend en charge ces questions de violence
à l'espace public.
Oui, l'espace public, quand on l'aménage, cela peut faire toute la différence. Un tunnel, si vous devez passer sous des voies ou dans un tunnel la nuit, que l'on soit d'ailleurs une femme ou un homme, ce n'est pas très agréable. Et donc c'est pour cela que l'urbanisme consiste souvent en fait, à transformer ce type d'espace qui ont beaucoup été pensés pour la voiture. Là, je fais le lien entre féminisme et écologie, mais je pense que c'est un lien important, parce que quand on pense l'espace public pour les piétons plutôt que pour les voitures, naturellement, les femmes vont aussi s'y sentir plus à l'aise.
Alors, de nombreuses femmes ne se sentent pas en sécurité dans de nombreuses villes. Un chiffre, les femmes sont la cible de 76% des atteintes sexuelles et sexistes dans les transports en commun, selon un bilan du ministère des Transports publié fin 2023. Évidemment, cette agressivité favorise le sentiment d'insécurité. Et comme le rappelle très bien Caroline Luxembourg, enseignante chercheuse en aménagement urbain, le fait même d'avoir peur est une violence en soi. Et cette appréhension incite les femmes à ne pas sortir la nuit. Ou alors elles les intègrent, et Yves Rébaud l'a dit dans l'extrait, de multiples stratégies d'évitement pour ne pas se retrouver dans des lieux qu'elles jugent peu sûrs.
Oui, personnellement, je ne connais pas de femme qui ne se soit jamais fait suivre dans le métro ou dans la rue. Toutes mes amies ont connu ces situations et c'est quand même incroyable de se dire que en France, en 2024, on en est là. Donc je crois que collectivement, on doit se saisir de cet enjeu et se dire ça n'est plus possible.
Et Edith Marie-Jules, très tôt, les filles intègrent le fait qu'il vaut mieux ne pas se promener, sortir à certaines heures, dans certains secteurs de la ville.
Oui, alors l'expérience, et c'est un peu intéressant que vous le renotiez, l'expérience des violences de la rue, c'est à partir de 12 ans. Ce sont les jeunes filles qui les sursubissent. Donc ça, c'est vraiment important aussi à dire. Donc effectivement, c'est de la relégation dès l'enfance.
Et cette peur, cette stratégie d'évitement, ça a un impact sur la façon de se tenir, de marcher et de s'habiller.
Absolument, ce sont des stratégies que les femmes adoptent. Souvent, elles se disent, bah voilà, si je sors la nuit, je vais pas m'habiller comme ci, comme ça. Là, ça va me mettre en danger. Et là aussi, c'est quand même incroyable qu'on doive réfléchir comme ça en 2024.
Et avec une conséquence, beaucoup trop de femmes s'empêchent de sortir, de flâner seules à certaines heures de la journée. Moi, en tant qu'homme, je ne me pose jamais la question. Jamais. J'habite dans un quartier populaire dans le nord de Paris. Je ne me pose jamais la question, si je rentre à 2h du matin, de me dire, ah ben tiens, je vais faire attention, Sabrina Nadjar.
Non, je voulais juste ajouter que sur 5 personnes qui se promènent la nuit, 4 sont des hommes.
Oui.
C'est quand même énorme.
Quelles sont les initiatives, Sabrina Nadjar, que vous avez pu noter à l'occasion de la publication de ce palmarès?
Alors,
des villes où il fait bon vivre pour les femmes.
Des initiatives qui sont très intéressantes et qui font appel à la société civile. C'est ce qu'on appelle les dispositifs demandés en Angela ou Shine en fonction des villes. Et c'est assez intéressant, ce sont des gens, des patrons de bar, des serveurs de boîtes de nuit qui sont formés en fait à repérer les situations de harcèlement ou les situations qui commencent un peu à dégénérer et à intervenir pour effectivement protéger les femmes, se mettre en contre.
Edith Marie-Jules.
Oui, tout à fait. Il y a plein de dispositifs. Je pense à l'arrêt des bus à la demande, à l'arrêt à la demande des bus, je ne sais plus, dans une forme de sens comme celui-là aussi, qui est très intéressant. Mais c'est de toute façon la question des femmes, mais pas uniquement. C'est la question aussi des fragiles et comment on peut effectivement trouver de la ressource auprès des autres quand il nous arrive quelque chose.
Marion Valère.
Oui, sur les transports, les rues, l'espace public, on peut agir pour adopter ce point de vue des femmes et aménager la ville différemment.
Il y a une question qui revient très fort dans les nombreux messages que nous recevons ce matin, que ce soit Charlotte, Émilie, Bernadette, la même question sur le fait qu'on éteigne l'éclairage public à minuit. Charlotte nous dit, était-ce une idée pour protéger les femmes? On préfère faire des économies d'énergie plutôt que de rassurer des habitants. Émilie, j'habite Strasbourg et depuis quelque temps, la lumière a été baissée la nuit, voire éteinte dans certaines rues. Bien qu'absolument pas peureuse, je me suis retrouvée avec un sentiment d'insécurité, surtout en hiver quand la nuit tombe tôt. J'ai deux ados filles, je ne suis pas à l'aise quand la nuit tombe avec elles dans les petites ruelles, même au centre-ville. Et pareil, Bernadette, depuis que les villes ont limité l'éclairage public, on n'est plus du tout rassuré lorsqu'on sort le soir. C'est criant à Montpellier, qui a une énorme offre culturelle et que je fréquente beaucoup la nuit. Avec les amis, on se raccompagne les unes les autres jusqu'aux arrêts de tram le soir. On ne peut pas sous-estimer ce sentiment d'insécurité qui produit, on l'a dit, qui a des répercussions corporelles et psychiques très fortes chez les femmes, Marion Valère.
Ce sujet montre, ce sujet de l'éclairage, il montre toute la complexité de l'aménagement de la ville. Parce que, vous l'avez dit, il y a les sujets d'énergie, d'économie d'énergie. Il y a les sujets aussi de biodiversité. Donc, beaucoup de défenseurs de la biodiversité disent qu'il faut éteindre les lumières la nuit pour créer des corridors pour les animaux.
Pour limiter la pollution lumineuse.
Voilà. Et puis, il y a ce sujet de la sécurité. Donc, ça montre, en fait, la complexité. Alors, ça ne veut pas dire que c'est impossible de concilier tous ces intérêts. Ça veut dire, en revanche, qu'il faut passer du temps pour comprendre et écouter tous ces différents intérêts. Et quand on fait ça, on a déjà fait une grande partie du chemin. Et donc, ça consiste en des marches exploratoires pour les femmes, pour comprendre quels sont leurs parcours, quelles sont les difficultés qu'elles rencontrent. Et je crois qu'en faisant ça, on trouve des solutions.
Edith Marie-Jules.
Oui, tout à fait. Enfin, tu l'as très bien dit. En fait, ça montre l'intérêt de travailler sur une démarche qu'on appelle itérative, c'est-à-dire sur laquelle on suit son dossier, on le suit, et dont le sujet sont les femmes. C'est-à-dire, ces groupes de cohortes, on les fait parler de leur quotidienneté, s'exprimer, dire ok, bon voilà, et essayer des choses aussi. Bon, la question d'être ensemble, c'est aussi une réponse.
Mais
de marcher ensemble.
Faut-il rallumer la lumière à certains endroits pour rassurer ces femmes qui vont peut-être s'empêcher de sortir la nuit parce que l'éclairage public est éteint?
Oui, il y a des endroits où c'est essentiel et si les femmes disent qu'elles en ont besoin pour se sentir en sécurité, je crois qu'il faut l'écouter.
Sabrina Nadjar.
Oui, oui, non mais absolument, c'est très très important, on ne peut pas aller contre cette liberté-là.
Alors Sabrina Nadjar, revenons-en à ce classement. Tiens, concernant l'offre de soins,
oui,
quelles sont les villes qui sont bénéfiques pour les femmes d'après votre classement? Alors dans l'offre de soins, il y a plusieurs critères. Il y a l'espérance de vie pour les femmes à la naissance,
absolument,
la densité de généralistes, de gynécologues et de pédiatres, l'accès à une maternité, la qualité des centres de traitement du cancer du sein.
Absolument.
Alors qui s'en sort le mieux?
C'est une évidence, Paris, évidemment. Mmh. C'est la première, ça c'est pas une surprise. Paris est très très bien placé. Quand vous voyez l'offre effectivement en CHU, secteur hospitalier de pointe, matériel de pointe, c'est évident. Ensuite, vous avez une ville en deuxième position quand même comme Montpellier. Donc c'est assez notable de le dire, avec une densité effectivement de spécialistes, de gynécologues, des maternités de grande qualité. Et puis en troisième position, vous avez Bordeaux. Voilà, on dit certes Paris en premier, mais vous avez deux autres villes qui sont pas forcément des grandes métropoles comme Lyon ou Marseille.
La sécurité, vous avez, pour élaborer ce classement des villes les plus sûres pour les femmes, vous avez retenu deux indicateurs fournis,
absolument,
par le ministère de l'Intérieur.
Tout à fait. Le premier indicateur que nous avons conservé, c'est les vols avec violence sur
les
la voie.
Les vols violents
Sans armes sur la voie publique.
Ou ça, autre c'est... lieu public.
Pardon ?
Sur la voie publique et sur d'autres lieux publics.
Oui, voilà, absolument. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est le nombre de viols de majeurs. Alors, pourquoi les majeurs ? Parce que malheureusement, on s'est rendu compte que la plupart des atteintes sexuelles avant 18 ans étaient commises dans le cercle familial ou le cercle proche. Donc, ça n'avait pas tellement de sens au niveau des villes.
Alors, quelles sont les villes les plus sûres selon ce critère de la sécurité ?
Première, Annecy. Deuxième, Colmar. Et troisième, Bayonne. pourtant dont on connaît les fêtes mémorables.
Et dans ce classement, qu'il s'agisse d'Annecy, de Colmar, d'Antibes, de Bayonne et de Dunkerque, ce sont des villes moyennes à taille humaine.
Absolument. C'est ça aussi que nous a enseigné cette enquête, c'est que en effet, à partir du moment où les villes ne sont pas trop étendues, mais finalement elles sont plus à taille de femmes, à taille, on dit effectivement à taille humaine, mais aussi à taille de personnes plus fragiles en fait, de personnes handicapées. Et c'est vrai que en tout cas c'est ce que nous a enseigné ce dossier. Alors est-ce que c'est un hasard? Ça, je laisse les urbanistes le dire, mais en tout cas, c'est ce que nous avons ressenti.
Edith Marie-Joules.
Oui, en tout cas, ça pose la question, comment on refait sens du voisinage, sens du collectif à travers les femmes et à travers l'aménagement de l'espace public. C'est-à-dire que c'est pas toujours des grandes places, des grandes plaines de jeux, etc. C'est aussi comment, dans mon dehors tout de suite, quand je traverse le seuil, je fais société à ce moment-là. Et c'est vrai que dans les villes moyennes, il y a une forme de solidarité, de proximité. Hein, j'allais dire, voilà, dans le vécu, les mêmes écoles, etc. C'est pour ça que nous, on travaille beaucoup, par exemple, les parvis d'école, les espaces pour aller à la crèche, les parcs, etc. Vous voyez, et on retravaille des petites sociétés qui se font à travers les femmes.
Marion Valère.
Oui, la question du quartier, elle est essentielle et on peut la travailler en réalité à toutes les échelles. C'est-à-dire que la ville moyenne, effectivement, c'est une taille qui est peut-être plus simple, mais dans une métropole, on peut travailler à l'échelle du quartier pour que, au quotidien, on se sente bien. Et il y a une urbaniste célèbre qui s'appelait Jane Jacobs qui avait un concept qui est celui de Eyes on the Street, c'est-à-dire les yeux sur la rue. Et elle disait ça, c'est un des principes fondamentaux de l'urbanisme. Ça veut dire que il faut que, en fait, les commerces ou qu'il y ait des choses qui donnent sur la rue, parce que, en fait, quand vous vous promenez dans la rue, si vous avez une rue où il n'y a rien, ou une rue où il y a des commerces de proximité, ça n'a rien à voir. Et en fait, quand il y a ces commerces de proximité et que vous connaissez les gens parce que c'est votre quartier, vous connaissez le bar du coin, différents commerces, bah, vous vous sentez bien, parce que vous savez que s'il y a un problème, vous pouvez rentrer et être aidé.
Edith Marie-Jules.
Juste par rapport à ça, nous on travaille beaucoup sur justement comment on équipe les commerces, parce qu'il y a des commerces qui provoquent des trottoirs masculins aussi. Hein, donc c'est toute l'idée de qu'est-ce qu'on met pour faire de la mixité à l'espace du trottoir.
Précisez quand vous dites on, Edith Marie-Joules, parce que vous ne parlez pas de vous à la troisième personne du singulier, quand vous dites on.
Non, en fait c'est avec le bureau d'études, voilà, l'atelier recherche Observatoire Égalité, nous travaillons depuis 10 ans, donc avec une collègue designer sociale, une sociologue, sur la question de l'aménagement égalitaire des villes.
Et concernant la sécurité, Sabrina Nadjar, Paris est peut-être la mieux classée concernant l'offre de soins, mais c'est la moins bien classée en matière de sécurité, suivie de Toulouse, Perpignan, Montpellier et Grenoble. Tiens, un autre critère dans votre palmarès très très intéressant, c'est la volonté politique, c'est-à-dire l'action des municipalités en faveur de l'égalité des sexes. C'est un indicateur très intéressant. Hein.
Alors, c'est d'autant plus intéressant que c'est un indicateur qui n'existait pas, que nous avons inventé, on va dire. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une véritable corrélation entre, d'abord, le fait que la maire soit une femme. Il faut savoir que sur les 50 villes qu'on a étudiées, 12 seulement ont une maire femme. Ensuite, de l'entourage de cette maire, que ce soit au niveau du conseil municipal, mais aussi au niveau de la préfecture, au niveau de la région. Le fait qu'il y ait des femmes, c'est un indicateur important. Autre indicateur, le fait que les adjointes aient des portefeuilles qui sont importants. Par exemple, l'urbanisme, mais aussi
les
finances, absolument. Donc ça, c'est fondamental. Ensuite, il y a aussi quelque chose de très important, c'est-à-dire que les villes ont obligation, depuis la loi de 2014, à s'intéresser à l'espace public en termes de genre, et elles ont notamment un budget pour ça. Mais le fait d'avoir ce budget n'oblige pas à le diffuser. Et quand les villes le diffusent sur leur site internet, c'est que là, vous pouvez être sûr qu'elles ont agi dans le bon sens.
Marion Valère.
Oui, on parlait de symboles tout à l'heure. Je crois que cet aspect politique, il est essentiel. J'ai plus le chiffre exact, mais il me semble que 80% environ des maires en France aujourd'hui sont des hommes. Ce chiffre, il est incroyable. En fait, il y a un moment, on peut faire tous les aménagements du monde. Si on ne donne pas plus de pouvoir aux femmes et si elles ne le prennent pas aussi, bien sûr, puisque c'est dans les deux sens, on n'y arrivera pas. Donc, moi, je rêve de ce moment où il y aura 50% de mères femmes en France.
Allez, dans un instant, nous vous dirons quelle est la ville la mieux classée concernant le fait qu'il fasse bon vivre quand on est une femme. Ce sera juste après avoir écouté Jay Bernhardt qui interprète Taxi.
And a gas station to the right at the next turn. Please don't turn on the music. I need to empty my head. Need some road noise to reflect on everything she just said. I am not mad, I'm just sad. I've been paying attention, so you've got to point my back. Just give it some rest, give it some time. Well, in the end, there's nothing that fucks you harder than time. Did you give it your all? Give it your all? And did I give it my all? Give it my all? So when two and two now makes five, then I wanna count again. Right from the start, till it makes sense in the end. On to the next town, and don't look behind. But watch out, it's just a crash waiting to happen.
Jay Bernhardt interprété Taxi.
Je rentre à scène.
Ah bon, mais pourquoi on est bien ici, Bijou?
Non, on n'est pas bien ici.
Grand bien vous fasse.
Je peux plus me manger du lièvre, de la biche.
Ali Rébéi.
Puis j'ai peur. J'ai peur. Les chasseurs me font peur. Les animaux me font peur.
Sur France Inter.
Je veux rentrer à Sèvres.
Et ce matin, on se demande quelles sont les villes où il fait bon vivre quand on est une femme, selon le palmarès établi par Femmes Actuelles et qui sera publié donc samedi. Alors, quelle est la ville, la première ville de ce classement général, Sabrina Nadjar, rédactrice en chef de Femmes Actuelles?
Vous faites le roulement de tambour,
oui,
Ali? Eh bien, écoutez, c'est Strasbourg.
La bonne élève.
La bonne élève. Strasbourg, ouais. La bonne élève. Alors, pourquoi Strasbourg? Ben, il faut savoir qu'entre la capitale alsacienne et les femmes, l'histoire d'amour est née dans les années 1990. À l'époque, Catherine Trottmann était élue maire. Mmh. Et dès ce moment-là, elle se mettait en fait à considérer l'espace public à l'aune des femmes. Il faut savoir que 10 ans plus tard, c'est une autre maire, cette fois de droite, Fabienne Keller, mmh, qui a pris la suite et qui dotait la municipalité d'une commission pour les droits des femmes. C'était la première de France. Et puis, ensuite, en 2008, nous avions un maire homme, Roland Ries, mais il s'est entouré d'une bande d'adjointes extrêmement agressives en matière...
Dans le bon sens du terme.
Voilà, mais dans le bon sens du terme.
Combattantes.
Voilà, absolument. Plutôt qu'agressives. Et notamment, il a nommé une adjointe chargée du droit des femmes. Et c'était la première du genre, et elle a fait de grandes choses. Aujourd'hui, la maire actuelle, Jeanne Barseguian, s'inscrit en
dans
fait
cette lignée, dans cette lancée lignée par Catherine Trottmann il y a 35 ans.
Exactement.
Strasbourg, la bonne élève, suivie de Rennes et de Bordeaux. Et ma bonne ville de Toulouse n'arrive que 22e sur, oui, 50. Autour de la table, pour terminer, en guise de conclusion, quelles sont les pistes pour vous, pour une ville plus égalitaire, Marion Valère, urbaniste?
Je crois que d'abord, il faut écouter ce que disent les femmes de leur quotidien, partir de leur point de vue pour aménager différemment la ville. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, on l'évoquait, je pense qu'il faut donner plus de pouvoir aux femmes. Il faut qu'il y ait plus de femmes mères. Il faut qu'elles aient plus de responsabilités. Ce que vous venez de dire sur Strasbourg est très signifiant. Quand les femmes sont au pouvoir, elles prennent aussi plus en compte ce point de vue, évidemment. Et puis, je crois qu'il faut beaucoup travailler sur l'éducation. On parlait des cours d'école tout à l'heure, mais vraiment partir de ce qu'est la ville pour les petites filles. Je crois que là, on aura fait une grande partie du chemin aussi.
Edith Marie-Jules, géographe.
Oui, donc moi, je tout à fait ce qu'a dit Marion, je suis tout à fait d'accord. Peut-être que ce qu'on peut projeter aussi, c'est simplement se dire de quoi on parle exactement. Ce dont on parle, c'est des femmes et des hommes qui discutent à l'espace de rue, qui rigolent ensemble, qui des petits garçons, des petites filles, des âgés, des espaces dans lesquels on se réhabilite aussi dans la relation humaine. Et je pense que c'est à nous aussi, hein, maintenant, de prendre cette place-là.
Un mot de conclusion, Sabrina Nadja.
Oui, non, effectivement, le vivre ensemble, c'est fondamental en réalité. Et c'est vrai que quand on voit par le prisme des genres, finalement, la volonté finale, c'est le vivre ensemble. C'est permettre finalement que les hommes, que les femmes puissent rire, discuter, trinquer ensemble et passer de bons moments, quoi.
Une belle conclusion. Merci beaucoup, Edith Marie-Jules. Merci, Marion Valère. Merci, Sabrina Nadja. Le palmarès des villes où il fait bon vivre pour une femme, c'est à lire samedi dans Femmes Actuelles et c'est un très très bon dossier. C'est une émission à podcaster sur l'appli France Inter. Demain, nous évoquerons le plaisir d'écouter Nirvana à l'occasion de la mort de Kurt Cobain, il y a 30 ans exactement, en compagnie de Mischka Assayas et Mathieu Conquet.